Ce dernier point ne faisait aucun doute pour Juan Diego. Mais quand il se remémorait les regards qu'elle lançait parfois au dompteur, il était convaincu d'y distinguer comme une lueur, rien qui rappelle la couleur ambrée de ceux des fauves, mais l'expression d'une lionne aux intentions indéchiffrables. Chapitre 29. Aller simple. Les combats de coqs sont autorisés ici. Ils ont beaucoup de succès, professa Dorothy. Les coqs sont déjantés, ils ne dorment pas la nuit. Ils se préparent mentalement pour leur prochain combat. Soit, se dit Juan Diego. Ça expliquerait pourquoi ce coq Maboul avait chanté en pleine nuit du Nouvel An à l'Encantador, mais pas sa liquidation en plein cocorico. À croire qu'il avait suffi que Myriam souhaite la mort du gallinacé importun pour lui couper le sifflet. Au moins, il était prévenu. Il entendrait chanter les coqs toute la nuit dans leur auberge à proximité de Vigan. Il était curieux de voir si Dorothy y ferait quelque chose. « Mais tuez-le, ce coq !» avait dit Myriam d'une voix sourde et rauque, cette nuit-là, à l'Encantador. Un peu plus tard, quand le troisième cocorico avait été stoppé à mi-course, elle avait ajouté « Voilà une bonne chose de faite. Il ne nous annoncera plus l'aube en plein milieu de la nuit. Fini les porteurs de fausses nouvelles. » Et comme les coqs chantent toute la nuit, les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, annonça Dorothy. L'endroit idéal pour se reposer, quoi, conclut Juan Diego. L'auberge était composée d'un ensemble de bâtiments tous assez anciens. L'influence espagnole y était manifeste. Peut-être s'agissait-il d'une ancienne mission, pensait Juan Diego. Et de fait, il y avait une église au milieu de la demi-douzaine de dépendances. Elle avait nom l'Escondrijo, la cachette. En arrivant après 10 heures du soir, il était difficile d'apprécier la nature des lieux. Les autres clients étaient allés se coucher. Le restaurant se trouvait à l'extérieur, protégé par un toit de paille, mais ouvert sur le côté et exposé aux éléments. Dorothy lui avait cependant garanti qu'il n'y avait pas de moustiques. Qu'est-ce qui en est venu à bout? Lui demanda Juan Diego. Les chauves-souris, peut-être. Ou alors les fantômes, répondit-elle d'un ton désabusé. Car les chauves-souris étaient actives toute la nuit, elles aussi. Elles ne chantaient pas, elles n'aboyaient pas, elles tuaient, en silence. Quant aux fantômes, Juan Diego y était quelque peu habitué, du moins le croyait-il. La chambre des amants improbables donnait sur la mer. La brise s'était levée. Il n'était pas à Vigan, ni dans une autre ville. Les lumières qu'ils apercevaient étaient celles de Vigan, et 2 ou 3 cargos étaient ancrés au large. Ils distinguaient nettement leurs feux de mouillage, et quand le vent portait, ils entendaient parbouffer les radios de bord. Il y a une piscine. Elle est aussi petite qu'un bassin pour enfants. Attention à ne pas y tomber, la nuit, elle n'est pas éclairée. Les chambres n'étaient pas climatisées, mais Dorothy affirma que les nuits étaient assez fraîches, d'autant plus qu'il y avait un ventilateur au plafond. Celui-ci cliquetait en tournant. Mais entre les coqs qui chantaient et les chiens qui aboyaient, on n'en était plus à ça près. La cachette n'avait rien d'un palace balnéaire. La plage jouxte le village de pêcheurs et l'école élémentaire. Mais on entend les voix des enfants qu'à distance. « Les gosses, il vaut mieux les entendre de loin, » déclara Dorothy au moment où ils se mettaient au lit. « Les chiens du village se sont appropriés la plage, mais tu ne risques rien si tu marches sur le sable mouillé. Il faut rester au bord de l'eau. » Quelle était la clientèle à l'Escondrijo? Le nom évoquait un repère de proscrits ou de révolutionnaires, plutôt qu'un havre pour touristes. Juan Diego allait s'endormir quand le portable de Dorothy se mit à vibrer avec un bourdonnement sonore sur la table de nuit. « Toi, maman, ah, quelle surprise !» dit Dorothy d'un ton ironique dans le noir. Il y eut une longue pause, égayée par les cocoricos et les aboiements, avant que Dorothy ne marmonne de « hum ». Il entendit aussi de « d'accord ?» puis « non, c'est pas vrai, c'est une blague !» Et ces dorotismes familiers furent suivis d'un commentaire final qui n'avait rien d'aimable. « Mes rêves à moi... »« Vaut mieux pas que je te les raconte, crois-moi, maman. Juan Diego, à présent bien éveillé, songeait à cette mère et à sa fille. Il se remémorait le moment où ils avaient fait connaissance et se rendait compte à quel point il était devenu dépendant d'elle. Rendors-toi, chérie, murmura Dorothy. Elle prononçait le mot chérie exactement comme Myriam. Et la main de la jeune fille se glissa sous les draps, où elle trouva infailliblement son sexe qu'elle serra, sans qu'il puisse interpréter ce geste. D'accord, voulait dire Juan Diego, mais les mots ne vinrent pas. Le sommeil le prit, comme s'il obéissait à Dorothy. Quand je mourrai, n'incinérez pas mon corps, balancez-moi tout votre pataquès, vos formules magiques à la noix, avait dit Lupe, en regardant droit dans les yeux le père Alfonso et le père Octavio. Voilà ce que Juan Diego entendait dans son sommeil. La voix de Lupe, formulant ses dernières volontés. Il n'entendit pas les coqs chanter, ni les chiens aboyer. Il n'entendit pas les deux chats qui s'étripaient ou forniquaient, l'un n'empêchant pas l'autre, sur le toit de paille de la douche extérieure. Il n'entendit pas Dorothy se lever au milieu de la nuit, non pour faire pipi, mais pour ouvrir la porte de la douche, où elle alluma la lumière. « Foutez-moi le camp, allez crever » lança-t-elle au chat, qui cessèrent de miauler aussitôt. Elle parla plus gentiment au fantôme qui s'était glissé tout habillé sous cette douche qui ne coulait pas. « Oh, pardon, je ne disais pas ça pour vous, je m'adressais au chat. » Mais il avait disparu. Juan Diego n'avait pas entendu les excuses de Dorothy au malheureux combattant tout juste évanoui dans le noir. Il faisait partie des hôtes de l'auberge. Le jeune homme au visage émacié et à la peau grisâtre était vêtu d'une tenue de prisonnier. C'était un de ces pilotes captifs torturés par le Viet Minh. Et en voyant son expression hantée, ravagée de remords, elle avait déduit qu'il comptait parmi ceux qui avaient parlé sous la torture. Peut-être la douleur avait-elle eu raison de lui. Peut-être avait-il signé des aveux arrachés de force. Certains jeunes Américains avaient même enregistré sous la contrainte des proclamations à la gloire du régime communiste. Ce n'était pas leur faute, ils n'avaient rien à se reprocher. C'est ce qu'elle aurait voulu leur dire à l'escondrijo. Mais ils disparaissaient dès qu'on essayait de communiquer avec eux. Je voudrais seulement qu'ils sachent qu'ils sont pardonnés, quoi qu'ils aient fait, ou qu'ils aient été forcés à faire, expliquerait-elle à Juan Diego. Mais ces jeunes fantômes ont leur propre notion du temps. Ils ne nous écoutent pas et ils n'essaient pas de rentrer en communication avec nous. Elle devait également lui apprendre que les prisonniers américains morts au Nord-Vietnam ne portaient pas tous la tenue de bagnard grise. Les plus jeunes portaient leur treillis. Je ne sais pas s'ils ont eu le choix. J'en ai vu qui portaient des vêtements de sport, des chemises hawaïennes, des conneries comme ça. Va savoir à quelles règles obéissent les tenues des fantômes. Juan Diego espérait bien ne pas avoir à croiser des spectres en chemise hawaïenne. Et lors de leur première nuit dans la vieille auberge, les apparitions de la clientèle en permission lui furent épargnées. Ses propres fantômes, querelleurs, accompagnaient ses rêves, des rêves pleins de bruit et de fureur. Comment aurait-il entendu Dorothy engueuler les chats et s'excuser auprès du fantôme? Lupe avait demandé des formules magiques à la noix. Elle allait être servie. Frère Pépé avait eu beau faire pour convaincre les deux prêtres de se cantonner à un service très simple, il n'avait pas eu gain de cause. La mort des innocents était le pain béni de l'Église. Pas question de lésiner. Lupe aurait droit au grand cérémonial, autant dire au grand tralala. Le père Alfonso et le père Octavio avaient tenu à ce que le cercueil soit présenté ouvert. Lupe y reposait en robe blanche, un foulard immaculé à son cou, cachant les marques de morsures et les ecchymoses. Les vapeurs d'encens étaient si profuses qu'elles noyaient dans une brume âcre le visage insolite de la Vierge Marie au nez cassé. Ces fumerolles inquiétaient Rivera. Il craignait que Lupe ne soit consumée dans les flammes infernales du Basurero, comme elle l'avait jadis souhaité. « Ne t'en fais pas.